Aujourd'hui sur Radio Royan-Vercors, on va parler des maisons familiales rurales et en particulier du centre de formation pour la promotion des maisons familiales rurales en cœur de parc du Vercors. On avait déjà reçu Pierre et Nadine il y a quelques temps sur les ondes de Radio Royan-Vercors ici à la chapelle. Parce que nous à Radio Royan, ça nous tient à cœur de souligner et de mettre en avant les initiatives en faveur du territoire, et c'est aussi le rôle de ce centre de formation. Donc il incarne des valeurs de proximité, d'accompagnement et d'innovation, en particulier dans le Vercors Sud. Et donc aujourd'hui, pour en parler, je suis ravie d'accueillir trois personnes. Donc il y a tout d'abord Nadine, il y a également Lucie et Pierre. Donc je vais vous laisser vous présenter, bienvenue. Nadine, est-ce que tu peux nous présenter donc qui est autour de la table ?
Oui, alors bonjour et merci de nous accueillir. Moi je suis Nadine Schwertiger et présidente de cette association Centre de Formation. Et il y a également Pierre Blondel qui est secrétaire de l'association. Donc tous les deux, on est bénévoles, membres du conseil d'administration. Et puis depuis septembre 2024, nous avons le plaisir d'avoir pu recruter et accueillir parmi notre équipe Lucie Grèce qui est à mes côtés. Voilà, et qui vous expliquera un peu la mission qui lui incombe.
Eh ben, on va y venir justement, parce que comme je le disais, donc on avait déjà fait une interview avec vous. Vous nous aviez présenté en détail le rôle et les valeurs à la fois de ce centre de promotion et de formation des MFR, et également donc vous nous aviez un peu introduit le rôle de l'association et vous nous aviez parlé du Boca Worm, qui est un principe de compostage. Donc ça, c'était il y a quelques temps déjà. Et donc, on va en profiter aujourd'hui pour faire un petit tour d'actualité de ce projet. Mais entre-temps, donc, il y a eu pas mal de changements de votre côté. Et notamment, vous avez développé plusieurs formations à destination des jeunes, des moins jeunes du territoire, des personnes qui veulent se lancer en lien avec l'agriculture. Donc, on va parler de ça dans un premier temps. Et puis après, voilà, on parlera un peu plus en détail des différentes actualités et du Boca Worm. Et donc, pour commencer, moi, j'avais envie de vous poser cette question donc, des formations que vous avez pu développer. Est-ce que, Lucie, peut-être, tu peux commencer par nous détailler cette volonté de vouloir faire donc, ces formations, et puis sur quelle thématique, surtout, parce que je crois que vous avez un point d'entrée qui est assez singulier.
Oui, alors nos formations, elles viennent d'une étude de territoire qui a été faite donc au début de la création de l'association et qui a mis en lumière des besoins sur le territoire, notamment côté agricole et côté transition. Donc la plupart de nos formations essayent de répondre à cette demande. Alors, on est sur un bassin d'influence assez large. Donc, notre siège social est effectivement au Vercors Sud, à la Chapelle en Vercors. Mais on va aussi côté Vercors Nord et de l'autre côté, côté Royan.
Super. Et donc, vous vous adaptez spécifiquement à la géographie et aux enjeux à la fois écologiques, économiques et sociaux des territoires sur lesquels vous êtes active ?
Oui, exactement. On travaille sur les transitions qui sont très présentes dans notre territoire de moyenne montagne. Et on essaye de répondre à ces questions, de s'adapter aussi à tous ces changements.
Et donc, vous avez déployé donc, différentes formations. Est-ce que pour commencer, peut-être pour rentrer dans le concret, tu peux m'en présenter une pour nos auditeurs, nos auditrices, et puis peut-être détailler aussi à qui ça s'adresse. Parce que quand on pense formation, on pense souvent aux jeunes qui sortent d'études ou alors pour qui le milieu scolaire, c'est pas tout le temps facile. Mais en fait, on peut faire des formations à tout âge, on peut se reconvertir. Et ça, c'est important de le dire.
Oui. Alors, je vais commencer par vous présenter notre formation maraîchage biologique de montagne. Donc, une formation courte sur 3 jours qui est pensée pour découvrir, comprendre, expérimenter justement les réalités d'un terrain en situation exigeante, sur petite surface, donc ce qui caractérise la moyenne montagne et notamment le Vercors, avec des pratiques agroécologiques adaptées. Donc, c'est une formation qui a plusieurs publics auxquels elle est destinée. Donc, par exemple, des agriculteurs qui voudraient diversifier une partie de leur ferme. Mais ça peut aussi être des personnes qui travaillent dans des jardins partagés, qui ont des projets collectifs autour du végétal. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous, jeunes, moins jeunes d'ailleurs, à des salariés, à des associés, à des porteurs de projets aussi, pourquoi pas, pour faire un premier test sur du végétal et du maraîchage en montagne. L'idée, c'est qu'on aille dans une ferme maraîchère diversifiée qui existe déjà, qui est installée et qui fonctionne bien. Donc, avec la présentation du parcours d'installation de ces personnes-là, les idées de commercialisation, leurs choix techniques, etc.
Et donc, ça, c'est une première formation donc, que vous allez mettre en place. Ces formations, techniquement, donc, qui est-ce qui les donne ? Qui est-ce qui enseigne ? Qui est-ce qui intervient ? Est-ce que ce sont des professionnels ? Est-ce que ce sont des formateurs, des formatrices du coin ?
Alors, pour cette formation-là, ce sont justement les agriculteurs de cette ferme sur laquelle on va aller. Donc, qui, eux, sont installés depuis 2018, qui ont aussi un volet formateur. Donc, ils ont la double casquette. Donc, c'est ça qui est intéressant, d'avoir et leur expérience sur le terrain et leur côté de pédagogique. J'ai juste pas dit quand elle aura lieu, cette formation, mais je le fais maintenant. Donc le 25, le 26 et le 27 mars 2026.
Et est-ce qu'il faut s'inscrire en avance ? On imagine que oui. Est-ce qu'il y a des coûts ? Comment ça se passe quand on veut s'inscrire à une formation qui est dispensée par un CFP des MFR ?
Alors pour toutes nos formations, il y a des coûts différents et il y a des modes de financement différents. Ça va dépendre. Donc si c'est une formation certifiante ou diplômante, par exemple, donc il y a des financements par le CPF, par les OPCO des entreprises, que ce soit Vivea ou Ocapiat, par France Travail, pourquoi pas aussi. Et puis on essaye toujours de faire un tarif réduit pour des financements individuels, comme cette formation maraîchage par exemple, qui peut être intéressante pour des personnes individuellement qui voudraient tester chez elles ce type de maraîchage. Donc on essaye vraiment de s'adapter aussi au public.
Ouais, c'est super. Et donc, si on a une question là-dessus, justement, sur le financement de cette formation, il faut vous contacter directement.
Exactement.
Tout est. Il ne faut pas se mettre des freins en se disant non. Ça va pas être accessible. Il y a toujours des moyens de trouver des financements.
Oui, tout à fait. Tout est sur notre site internet et on est une petite équipe réduite, hein, comme l'a dit Nadine. Donc, on est très accessible. Téléphonez-nous, envoyez-nous un mail. Il n'y a pas de problème. On répond.
Et donc là, cette formation, ça va se passer sur le plateau du Vercors, c'est ça ?
Oui, à Rancurel.
OK. Et donc, c'est bien d'être sur place les 3 jours.
Oui.
Il y aura des solutions aussi d'hébergement.
Exactement.
Si besoin.
Et... tout à fait.
Donc, sa première formation, donc maraîchage bio. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, le maraîchage bio en moyenne montagne. Les hivers sont parfois longs, parfois rudes. Il y a la question de l'eau aussi. Et ça, c'est des singularités qu'on a aussi sur le plateau du Vercors, qui était déjà présente. On a peu d'eau, ça, c'est une singularité. Et en fait, avec le changement climatique, on imagine que ça va évoluer, se transformer. On ne sait pas trop dans quel sens. Mais est-ce que ça, c'est des choses que vous intégrez dans vos formations ?
Ben, en fait, c'est le sujet. Hein, le sujet de notre association, c'est quand même d'essayer de donner des billes aux acteurs du territoire pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions, à des conditions hyper changeantes. Ça galope vite. Hein. Les températures, elles grimpent de plus en plus souvent. Et c'est vrai que les professionnels qu'on a sur notre territoire, en tout cas dans le domaine de l'agriculture, ceux qu'on connaît sont des gens extraordinaires qui développent des capacités d'adaptation, qui développent des expérimentations. Et donc, c'est vraiment notre objet, c'est de les aider à transmettre en temps réel pratiquement leurs nouvelles pratiques dès lors qu'ils les ont à peu près stabilisées. Donc on est là pour ça et j'en profite, donc j'ai le micro, pour lancer un appel à tous les agriculteurs du territoire qui souhaiteraient rejoindre notre groupe parce qu'il y a une vraie réflexion pour essayer de faire ensemble. Hein, on a intérêt à faire collectif pour s'adapter à ces nouvelles conditions et notre but dans l'asso, c'est aussi de mettre en valeur ces nouvelles pratiques et toutes les compétences que chacun peut développer, essayer de les regrouper et puis de les transmettre. Voilà.
Ouais, donc ça, c'est quelque chose que vous avez développé, ce maillage dans le territoire auprès des agriculteurs. Et je trouve ça assez intéressant, votre approche, parce que Vous allez chercher le savoir et les connaissances là où elles se font, sur le terrain. C'est pas des universitaires qui vont venir et qui vont apprendre un savoir de manière descendante, comme on a un peu plus l'habitude à l'école. Mais là, vraiment, vous considérez que le savoir et le savoir-faire, il est sur place, quoi. C'est ça.
C'est ça. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de susciter. C'est que chaque professionnel qui a quelque chose à transmettre vienne nous voir. On en parle. Nous, on peut prendre en charge l'aspect plus pédagogique, hein, puisque c'est quand même notre rôle, notre ADN, mais aider à faire en sorte que les savoirs qui sont parfaitement adaptés à ces nouvelles conditions puissent être transmis aux nouvelles générations, que ce soit donc des jeunes qui sortent de formation ou des personnes qui cherchent ce qu'on appelle les bifurqueurs, hein, qui cherchent à se reconvertir. Voilà, que ce savoir-là se transmette et se perde pas. Voilà, donc on fait appel à eux et après, on se débrouille pour mettre ça en forme sur le plan pédagogique. Donc, venez nous voir, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait.
Eh ben super, ça apporte pas mal de billes et de clés de lecture en tout cas pour bien comprendre l'intention et le contenu de ces formations. Donc là, on vient d'en parler d'une première, donc maraîchage bio en montagne, moyenne montagne. Et donc, il y en a d'autres, Lucie également?
Oui, on a aussi, en mars aussi, qui commence aussi en mars et là, qui se termine en juin, donc une formation plus longue. Une formation sur la gestion d'entreprise, surtout le côté comptabilité, ressources humaines, stratégie de développement. Donc, c'est une formation longue, mais en alternance. Donc, il y a 190 heures en centre de formation et 210 heures en entreprise sur une ferme au choix du candidat. Et l'idée, c'est de soit faire monter en compétences des salariés qui voudraient prendre part à la gestion d'entreprise, soit des associés ou des conjoints d'exploitants qui gèrent cette partie, mais un peu pour le moment en apprenant sur le tas et en n'ayant pas forcément toutes les clés en main, ou pourquoi pas des personnes qui viennent de s'installer et qui, pareil, n'ont pas toutes les clés pour gérer convenablement leur entreprise. Donc, c'est aussi ouvert à différents types de personnes. Et là, l'idée vraiment, c'est de développer les compétences pour gérer, piloter efficacement l'entreprise. Encore une fois, avec la comptabilité, les ressources humaines, tout ce qui n'est pas très sexy, en fait, quand on dit « j'ai envie d'être agriculteur », on ne pense pas forcément à ça, mais c'est quand même ça qui est nécessaire. Enfin, c'est une partie nécessaire si on veut avoir une entreprise pérenne.
Ouais, on en entend parler même dans l'actualité. C'est vrai qu'il y a tout un volet administratif et il y a de la paperasse quand on a une activité agricole, quelle qu'elle soit, à la fois pour obtenir de l'aide, des financements et à la fois aussi pour bien gérer le quotidien de son entreprise. Et c'est souvent des moments casse-tête parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas... Enfin, voilà, il y a quelque chose... un apprentissage qui est à faire là-dedans aussi. Et c'est super chouette que du coup, il y ait ce cadre qui soit proposé. Et c'est vrai qu'on gagne en temps, on gagne en efficacité quand on a quelques apports théoriques là-dessus.
Oui, je rajoute juste que c'est une formation certifiante. Donc les financements aussi sont plus accessibles de ce point de vue-là et avec un cahier des charges bien défini.
Super. Et donc là, c'est donc de mars à juin. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour cette formation?
Oui, c'est tout à fait possible de s'inscrire. Pareil, appelez-nous, allez voir notre site. Tout est possible. On peut discuter ensemble avant une potentielle inscription.
Et donc là, on parlait donc d'entreprises qui œuvrent dans le secteur agricole. À quel point le spectre, il est large quand on parle d'agriculture? Est-ce qu'on est forcément dans élevage-maraîchage ou est-ce qu'on peut aller plus large?
Non, on peut aller plus loin. Par exemple, des entreprises du paysagisme sont aussi concernées. On sait justement qu'il y a un trou dans la formation de ce point de vue-là. Donc nous, on essaye vraiment de combler ça. Je pense que à la première interview, c'est ce qu'avait dit Nadine et Pierre, c'est qu'on essaye de se mettre là où il y a un manque. Et là, pour le coup, il y a vraiment un manque, d'où l'intérêt de cette formation.
Et donc là, encore une fois, si vous avez des questions, des curiosités, il ne faut pas hésiter à contacter le CFP. Et donc là, on vient de parler donc de cette deuxième formation, plutôt donc côté gestion d'entreprise. Et donc, vous avez d'autres formations aussi sur la thématique de l'agriculture.
Oui, on est en train de mettre en place une formation, très longue cette fois, on pourra dire, d'un an, qui est un titre à finalité professionnelle TEA, donc technicien entrepreneur en agriculture, qui là pour le coup reprend un peu les deux autres formations et qui est, alors pour le faire simple, le pendant du BPREA. Les deux grandes différences avec un BPREA, c'est déjà le temps passé sur le terrain, puisque nous, avec notre TEA, on est à plus de 50% sur le terrain. Il y a 700 heures sur l'année en centre de formation, mais il y a 750 heures en entreprise. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'alternance, la pédagogie de l'alternance des MFR, c'est vraiment ça, prendre le parti que l'entreprise, c'est aussi un lieu de formation et on l'utilise en retour en classe comme retour d'expérience, etc. Et la deuxième grande différence, c'est que nous, on est maître de notre cahier des charges. Pédagogiquement, on est libre. Ce pourquoi, au CFP-MFR, on a décidé de faire un TEA polyculture, élevage, agriculture durable de moyenne montagne, toujours pour coller à ces transitions, à essayer de les comprendre, de les anticiper et en tout cas de travailler autour. Et la deuxième chose importante à préciser, c'est que nous, au CFP, on a décidé aussi de morceler notre TEA en le coupant en 10 modules différents, ce qui n'existe nulle part ailleurs. On est un peu les pionniers là-dedans, c'est une expérimentation, hein. Donc, ça veut dire que notre TEA, on peut faire un TEA sur un an et à la fin avoir les aides à l'installation, s'installer, etc. Mais on peut aussi prendre seulement des modules du TEA, un module sur la transformation, un module sur la commercialisation. Par exemple, le bloc 3 sur la gestion d'entreprise qui fait aussi partie du TEA. Et donc là, peut-être que ça s'adresse plus à des exploitants déjà en place, mais qui voudraient monter en compétences, diversifier leur ferme sur certains aspects. Voilà.
Et donc là, si on compare un peu l'approche de cette formation par rapport à une formation classique de BPREA qu'on pourrait avoir dans d'autres centres de formation, c'est cette question de la modularité et puis la question du développement durable aussi qui est singulière à ce que vous proposez ?
Exactement, il y a ça. Et il y a aussi le fait, ce que disait Nadine, hein, c'est que nos formateurs, pour la plupart, seront des agriculteurs du territoire, donc qui apporteront leur expérience. Et on collera le plus possible aux besoins des candidats, qu'ils soient salariés qui veulent se qualifier davantage, qu'ils soient des personnes en reconversion qui souhaitent s'installer, qu'ils soient des exploitants qui veulent diversifier leur ferme, voilà. C'est aussi ça, notre singularité. Et l'avantage d'être une petite structure nouvelle, on peut vraiment s'adapter à tous et essayer de faire tout notre possible pour coller vraiment aux besoins.
Ouais, bah c'est hyper enthousiasmant. Et donc, cette formation, elle dure un an. Est-ce qu'il y a une date à laquelle elle va commencer et où il faut un peu anticiper ? Parce que là, il y a peut-être un peu plus d'engagement, vu qu'il faut trouver aussi une entreprise dans laquelle travailler.
La formation est prévue pour octobre 2026. On peut déjà nous contacter pour discuter, commencer les entretiens, se préinscrire. Et ce qui est important de rappeler, c'est que nous, on est bien un centre de formation pour adultes. Donc, les stages en entreprise sont bien des stages de la formation professionnelle adulte et pas des contrats en apprentissage. Voilà, c'est juste un petit détail administratif, mais selon l'âge ou le projet, ça peut avoir son importance. Notre prochaine action sur le calendrier, c'est ce samedi. Donc, il faut vite, vite s'inscrire si vous êtes intéressé. Appelez-nous, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on refait la même journée le samedi 7 février. Donc, c'est une journée qu'on a appelée « Devenir agriculteur en moyenne montagne » qui, là, concerne spécifiquement les personnes qui auraient un projet ou en tout cas qui seraient en réflexion pour s'installer ou reprendre une ferme sur de la moyenne montagne, sur le Vercors. C'est une journée qu'on dédie vraiment à la découverte de l'agriculture de moyenne montagne et qui est possible, encore une fois, grâce à nos chers agriculteurs qui sont toujours partants et répondants quand on leur demande de venir soutenir nos projets. Donc, ça sera une journée avec des échanges autour de l'agriculture en transition, tout ce dont on a parlé au fil de l'émission, avec des exemples de réponses adaptatives, notamment Boca Warm, avec aussi la visite d'une ferme, et on en profitera pour présenter nos formations. Donc, samedi 24 janvier et samedi 7 février. Tout est encore une fois sur notre site internet. Appelez-nous, envoyez-nous un mail. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, je précise juste que c'est un événement gratuit, mais sur inscription uniquement.
Donc ça, c'est la troisième formation. Quatrième formation du catalogue.
Alors, on sort un peu du côté agriculture, mais on reste toujours dans les transitions. Alors là, c'est une formation, ça s'est un peu passé à l'envers. C'est pas nous qui l'avons proposé, c'est qu'on a trouvé un peu un talent sur le territoire et on s'est dit, ça serait génial de créer une formation grâce à toi. Et donc, alors là, c'est une formation en surcyclage textile. Donc, le surcyclage, c'est le fait d'utiliser des objets en textile, donc des rideaux déchirés, des jeans trop petits, un sac, voilà, des nappes, de tout, un peu tout ce qui peut exister en textile, et de lui redonner une nouvelle vie, mais sous une autre forme. Donc, c'est pas réparer un rideau pour en faire un rideau, mais c'est utiliser un vieux rideau pour en faire, par exemple, une veste. Donc là, on reste toujours aussi dans l'idée de valoriser ce qui existe déjà.
Oui, c'est bien ce que le mot veut dire, surcyclage. C'est à l'inverse du recyclage où on transforme la matière en une autre matière. Ici, on vient revaloriser, on redonne aussi une valeur à cet objet-là. Et donc là, c'est vrai qu'en plus, dans l'actualité, on se rend compte que l'ébène de vêtements, eh bien, en fait, elle déborde. On n'arrive pas à traiter autant de déchets. Et en fait, avant de jeter, il y a peut-être encore un petit espace de vie pour ce textile, pour cette matière qui a été fabriquée.
Oui, exactement. Et c'est ça qui est intéressant de faire d'un cercle vertueux de ces matières qui auraient pu justement partir à la benne. Et j'en profite pour dire qu'on travaillera avec les recycleries du Royan et du Vercors pour trouver nos pépites textiles à transformer. Et donc, cette formation, elle aura lieu en mai-juin 2026. Alors, elle est ouverte en formation professionnelle avec des financements si vous avez un projet professionnel sur cette thématique. Mais c'est aussi une formation qu'on a voulu loisir, donc vraiment ouverte à tout le monde, que vous ayez des bases en couture ou pas. Mais voilà, des gens que ça pourrait intéresser et qui ont cette appétence pour le surcyclage. Et je précise juste que la formatrice est vraiment hyper dynamique, que ça se fera dans un atelier de couture avec toute l'ambiance qu'il y a autour, qu'on a visité et qu'on a eu un petit coup de cœur, on va le dire. Donc voilà, c'est vraiment une formation très sympa.
Et là justement, donc ça va se passer dans un atelier de couture, ce que tu disais. Est-ce que c'est ouvert à toutes les personnes, même si elles ne savent pas encore coudre? Ou alors est-ce qu'il faut un petit peu de savoir-faire, un petit peu de pratique en amont?
Non, c'est vraiment ouvert pour le coup à tout le monde. Même si on n'a jamais touché une machine à coudre, c'est 18 heures, donc c'est très très rapide, qu'on a étalé quand même sur 3 semaines pour faire des petits modules sympas. Et encore une fois, en petits groupes, comme nos autres formations, d'où la possibilité de ne jamais avoir fait de couture. Ça laisse du temps pour tout le monde, vraiment de l'individualisation des parcours. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Venez, ça va être chouette.
Et donc là, cet atelier de couture, ça sera sur le plateau du Vercors?
Ça sera dans le Royan.
Ah, ça sera dans le Royan.
On se promène.
Super. Et côté Radio Royan Vercors, évidemment, on se chargera de rappeler aux auditeurs, aux auditrices, les dates et le détail de toutes ces formations. Donc ça, c'est les 4 formations principales que vous vous proposez. Et donc, comme on le disait en début de cette interview, on avait fait une précédente rencontre avec vous deux, donc Nadine et Pierre, il y a quelques temps, pour parler d'un autre projet, le projet Bocaworm. S'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent en savoir plus et avoir tous les détails, on vous invite à réécouter cette interview. Et est-ce que peut-être, Pierre, tu peux quand même nous préciser le principe de ce projet du Bocaworm et puis nous donner les actualités?
Oui, alors dans les grandes lignes, le principe du projet Bocaworm, ça consiste en une technique de lombricompostage avec une bocagisation préalable des biodéchets. Une bocagisation, c'est quoi? C'est une digestion un petit peu à la manière lorsque l'on fait par exemple de la choucroute, c'est-à-dire on introduit des bactéries ou des champignons à l'intérieur du système et il va y avoir une prédigestion. Et cette prédigestion favorise ensuite l'assimilation par les lombrics du sol. Voilà, c'est ça cette technique au sens large. Donc elle est développée sur 2 aspects au niveau du territoire Royan-Vercors, c'est-à-dire l'aspect, on développe ce projet-là dans le cadre d'un Living Lab. Alors un Living Lab, en fait, c'est une collaboration entre plusieurs parties. Ça peut être aussi bien ici des agriculteurs. D'abord, au départ, un centre de recherche autour duquel gravitent d'autres partenaires, notamment l'INRAE, l'école d'agriculture de Lyon, l'ISARA. ainsi que dans une moindre mesure, mais aussi un partenariat avec l'école de vétérinaire de Toulouse. Et donc là, il y a un protocole opératoire qui a été mis au point dans le cadre du Living Lab pour pouvoir voir comment on peut améliorer la valorisation des fumiers. Et donc là, on est rentré dans ce protocole-là maintenant il y a plus de 2 ans. Et là, on est rentré dans le dur de l'expérimentation, c'est-à-dire les agriculteurs ont fait du bokashi avec leur fumier. Ils ont maintenant du fumier à disposition bokashisé et lombricomposté. Et là, on est parti dans l'étape d'épandage sur les champs, épandage comparé pour voir l'efficacité sur la pousse des prairies. Donc quand je dis épandage comparé, c'est-à-dire on fait une bande de prairies à partir du fumier frais, une bande de prairies sur du fumier uniquement bokashisé sans avoir été consommé par les lombrics et une bande de prairies où on épand le lombricompost et on regarde l'effet à la fois sur la pédofaune. La pédofaune, c'est-à-dire comment toute la faune intra-sol se développe ou se maintient ou s'améliore, et aussi l'effet sur la pousse des différentes graminées, des différentes espèces végétales qui sont présentes dans la prairie. Donc ça, on est rentré dans cet aspect-là. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont prises sous la responsabilité soit de l'ISARA, soit de l'INRAE. Et on regarde aussi l'aspect, pathogène via une étude qui va être lancée ou qui est en cours de lancement sur l'école de vétérinaire de Toulouse.
Ouais, donc là, ça a vraiment bien avancé par rapport à l'étape où on s'était rencontrés juste avant, il y a 2 ans. Donc là, vraiment phase expérimentale, on épand, on regarde ce qui se passe. Du coup, il y a plusieurs agriculteurs qui se sont portés volontaires. Comment ça s'est passé pour...
Alors absolument, c'est qu'en fait, dans le cadre du projet, à la genèse du projet, il y a 10 d'agriculteurs qui s'étaient inscrits à la formation. Et là, l'ensemble des agriculteurs se sont portés volontaires pour poursuivre l'expérimentation sur leur domaine agricole. Et c'est là où c'est remarquable, c'est de voir où on a pu rapprocher 10 agriculteurs qui étaient un petit peu étrangers à tout ce qui pouvait être une expérimentation type recherche. Et là, ils se sont vraiment prêtés au jeu. Et là, on va réunir 10 agriculteurs avec des chercheurs d'assez haut niveau. C'est quand même assez remarquable. Et ça, c'est important de le pointer, quoi.
C'est super important de le pointer. On espère qu'on pourra rapporter des petites nouvelles de ce projet parce que c'est assez stimulant. C'est vrai qu'il faut prendre soin de ces sols. Tu parlais de la pédofaune. C'est vrai qu'il y a plein de petites bêtes qui grouillent dans le sol, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui font que le végétal peut pousser. Et en fait, ça, si on en prend soin, notamment avec des techniques naturelles, on peut se passer de tous les intrants qui peuvent être dangereux pour la santé humaine, pour la santé aussi de l'environnement. Et donc là, de voir qu'il y a des projets comme ça qui se développent sur le territoire et que les agriculteurs, il faut le préciser, ils sont moteurs là-dedans, c'est super chouette de l'entendre parce que on n'entend pas forcément des bonnes nouvelles en ce moment sur ces thématiques-là. Et en fait, il y a des réjouissances quand même.
Absolument. Et de toute façon, là, en plus, c'est une expérimentation qui va s'étaler jusqu'en 2027. 28, oui, même 28. Donc, en fait, c'est quand même une expérimentation de longue haleine parce qu'on touche du vivant et le vivant, ça réagit pas à la même vitesse à laquelle on est habitué quotidiennement. Donc, il faut attendre des résultats.
Il faut tant d'années pour avoir des résultats, pour avoir un certain recul et dire oui, ça fonctionne. Et comment est-ce que ça fonctionne ou non, ça fonctionne pas?
Alors, sur les premières années, certains épandages, on voit des petites tendances, mais c'est compliqué de conclure dans la mesure où il y a un certain nombre de variables qui peuvent être liées à la météo ou autre. Et donc, c'est difficile de conclure. Il faut avoir un recul de plusieurs années pour que statistiquement, ça soit représentatif et qu'on soit à peu près certain du résultat.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce petit tour d'actu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter?
Alors oui, je rajouterai que comme il y a 2 volants dans le Living Lab, il y a l'aspect agriculture dont on vient de parler et aussi l'aspect au niveau démonstrateur de lombricomposteurs communaux. Et donc, il y a celui de la chapelle qui a démarré le 12 avril dernier. Et donc là, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il fonctionne bien. Les habitants jouent le jeu. On fonctionne en collaboration avec les techniciens de la Comcom qui assurent la gestion, presque au quotidien du composteur. Tout se passe bien. On a pu traiter jusqu'à, j'ai fait un bilan jusqu'à fin décembre, on a traité 4 tonnes de bokashi, soit à peu près 2 tonnes de biodéchets traités, c'est-à-dire les biodéchets, c'est les déchets que produisent monsieur et madame tout le monde. Hein. Et
les
donc,
épluchures de légumes,
les
restes de cuisine.
Les restes de repas, etc. Et donc, et à l'issue de cette production, on a pu déjà ressortir à peu près 500 kilos de vrais lombricompost. Et donc, on a un projet au printemps de faire une distribution de lombricompost avec un petit événement dont on aura sûrement l'occasion d'en reparler à Radio Warrior.
Eh bien, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que ça peut être des beaux moments pour se rencontrer et pour parler de ces enjeux, parce que même à la campagne, il y a ces enjeux de recyclage, notamment de nos déchets, qui peuvent être là aussi valorisés d'une autre manière. Donc là, ça, c'était un petit tour d'actualité donc, sur ce projet donc, du Bokaworm. Et Nadine, toi, tu voulais nous parler d'une autre actualité.
Alors, c'est en lien avec Bokaworm toujours. C'est une formation que nous lançons donc ce printemps. En théorie, on devrait la démarrer le 2 mars. Il est possible qu'on la repousse un petit peu pour former. Alors, c'est une formation de 14 heures pour former à la technique du procédé Bokaworm, également à la compréhension des biomécanismes qui sont impliqués dans chacune des étapes que Pierre a détaillées tout à l'heure. Et donc, cette formation, elle s'adresse en priorité aux MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont des structures qui accueillent des élèves en pension et donc qui ont des cantines. Et donc, on les incite à traiter leurs biodéchets à l'image de ce qu'on fait au niveau de la commune de La Chapelle en Vercors avec le démonstrateur communal. Mais cette formation a la vocation à s'ouvrir plus largement également vers des personnes qui pourraient être intéressées pour pratiquer Bokaworm chez elles, dans leur jardin, avec leur propre production de déchets alimentaires, mais également à toute structure qui pratique donc de la restauration collective ou pas, et qui souhaiterait donc recycler ces déchets alimentaires pour en faire un produit qu'on peut réutiliser en agriculture biologique, hein, puisqu'il est conforme, le lombricompost obtenu est conforme à la norme qui permet d'utiliser ce produit en AB. Voilà, donc cette formation, encore une fois, elle est ouverte à peu près à tous. Et je pense aussi à des associations, par exemple, qui hébergent des personnes. Dans le Royan, il y en a pas mal. Et qui ont un tout petit bout de terrain qui pourrait être disponible pour faire cette transformation. Et c'est quand même très gratifiant d'obtenir un très beau produit à partir de nos déchets alimentaires. Ça se fait très rapidement, en 4 mois. Ça limite les émissions de gaz à effet de serre par rapport à du compostage classique. Donc, on sait qu'on est vertueux. Et je voulais simplement préciser deux ou trois choses. Donc, Bokaworm est une réponse des collectivités aux exigences de la loi AGEC qui a été revue en 2024 et qui contraint l'ensemble des collectivités et aussi des professionnels de la restauration à trouver une solution pour traiter leurs déchets alimentaires qui ne peuvent plus être jetés dans la poubelle normale. Donc, c'est un procédé c'est une solution, en tout cas, pour répondre à ça. Cette solution, attention, elle est encore en phase expérimentale. Mais on a déjà pas mal de recul et on voit que ça marche. Ça marche même plutôt très bien. L'avantage de l'expérimentation, c'est que pour toutes les structures collectives qui l'utilisent, le matériel et le suivi technique est assuré gratuitement. Donc, en gros, ce qu'on demande, c'est de suivre une formation de 14 heures pour comprendre comment ça se passe, d'avoir aussi une personne référente avec qui on peut continuer à interagir dans le cadre de l'expérimentation, hein, pour voir comment ça se passe, etc., rectifier des choses si ça doit l'être. Voilà, et donc le coût réel, il est vraiment relié qu'au coût de la formation. Et je voudrais encore une dernière chose, insister sur la dimension collective de ce projet qui regroupe une quantité d'acteurs, une quantité et une diversité d'acteurs. Et c'est quand même assez formidable de pouvoir animer sur notre territoire une action de ce genre, donc avec, comme l'a dit Pierre, un réseau d'agriculteurs, mais également donc un réseau de laboratoires de recherche, mais également des collectivités territoriales, notre Comcom Royan-Vercors qui nous suit là-dessus, la commune de La Chapelle-en-Vercors qui nous a beaucoup suivis sur le démonstrateur communal, et d'autres communes, peut-être un projet de démonstrateur sur Saint-Laurent-en-Royan qui verra le jour dans les prochains mois. Et d'autre part, on a également la possibilité, grâce au financement qu'on a pu trouver, différents financements dont la Fondation Géothèque qui nous a soutenus, notre Comcom également, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des fonds européens qui nous soutient pour le déploiement de ce Living Lab. Et pour nous, le CFP, ça nous permet de payer les compétences d'un expert technique, Bocaworm, qui est un agriculteur du plateau du Vercors Sud et qui tient ce rôle absolument essentiel d'accompagnement sur le terrain de tous les acteurs, agriculteurs et également agents techniques de la CCRV.
Et donc là, encore une fois, on s'appuie sur le savoir et le savoir-faire de quelqu'un du territoire. Et c'est super chouette de le voir. Et puis, on le sait aussi associer des compétences un peu plus universitaires à ce milieu-là. Et moi, ce que je voulais aussi peut-être ajouter, c'est qu'il y a aussi une valeur pédagogique et de sensibilisation à s'inscrire dans un projet comme ça. Si une collectivité, si même une colonie de vacances accueille un projet comme ça, bah, c'est aussi l'occasion de parler du compost avec les personnes qui vont venir fréquenter ce bâtiment, qu'il soit collectif ou privé d'ailleurs. C'est quand même un beau support pédagogique. Puis comme vous le disiez, c'est un processus qui est assez court. Donc sur une année scolaire, on peut voir une évolution. Et ça, c'est beau aussi de passer du moment où on a un déchet alimentaire à son processus de transformation. Et puis après, à un moment donné, il retourne au sol. Ça, c'est quand même une valeur pédagogique qu'on en entend de plus en plus parler dans les cours d'école et
tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on a dirigé pas mal nos actions de formation vers les MFR. Mais évidemment, on reste ouvert aux écoles qui souhaiteraient venir. Alors, il y a l'école de La Chapelle qui est vraiment tout à côté du démonstrateur. Donc, c'est un projet qu'on a. On manque un peu de temps pour le faire, mais j'espère qu'on va le trouver parce que ce serait très intéressant de monter un petit atelier avec les écoliers là-dessus. Pareil au niveau des collèges, hein, collège de La Chapelle, collège de Saint-Jean, voire de Pont-en-Royan. Ça serait vraiment super d'arriver à développer un projet éducatif qui touche à la vie du sol et à la vie tout court, parce que quelque part on est vraiment dans une forme d'économie circulaire vertueuse qui permet de remettre le carbone au sol au lieu de l'envoyer réchauffer l'atmosphère.
Merci beaucoup pour cette présentation et donc ce tour d'horizon des différentes actualités donc autour de ce projet Bocaworm. Et ben c'est peut-être le moment du coup de nous rappeler donc le nom de votre site internet pour les personnes qui souhaiteraient donc vous retrouver. Là, on est en train de parler donc du centre de formation pour la promotion des MFR, des maisons familiales rurales. Vous, votre spécificité, c'est que vous êtes en cœur de parc du Vercors, parce qu'on peut en trouver un peu partout des MFR et des CFP de MFR. Donc, quel est votre site internet et où est-ce que vous vous trouvez à La Chapelle-en-Vercors?
Alors, notre siège social est à La Chapelle-en-Vercors. La plupart du temps, quand on reçoit quelqu'un, c'est à la Maison de l'Aventure parce qu'on est hors les murs. Donc, on est dans le tiers-lieu de la Maison de l'Aventure. Notre site internet, c'est www.mfr-vercors.fr. Et notre mail, peut-être, cfp.vercors@mfr.asso.fr.
Eh ben, merci beaucoup, Lucie. On va remettre par écrit donc toutes ces informations, notamment ces contacts, sur l'article qu'on va mettre en ligne sur notre site internet à nous, donc radioroyan.fr. Il y aura tous les détails, on va mettre les liens. Et puis, merci beaucoup à vous trois pour cette présentation. Donc, on était en compagnie de Pierre, de Nadine et de Lucie. Vous nous avez présenté donc les différentes formations de ce centre de formation DMFR en cœur de parc du Vercors. Et puis on a fait un petit tour d'horizon du Boca Warm et on sera ravis d'en reparler donc en avril prochain. Puis on vous reproposera, vous auditeurs, les différentes actualités. On rediffusera cette émission dès qu'il le faudra pour vous rappeler les différentes dates de ces formations. Merci à vous trois.